Après Gênes, posez les bonnes questions. Gênes a été un point tournant pour le mouvement anti-globalisation. Il est clair maintenant que dans le premier monde également, il s'agit d'un combat à mort, comme cela a toujours été dans le tiers-monde. Notre réponse tranchera. La répression nous a-t-elle détruit ou nous a-t-elle renforcé? Afin de revenir plus fort, nous avons à comprendre ce qui s'est vraiment passé là-bas.
Les médias racontent une seule histoire à propos de Gênes. Un petit groupe de protestataires violents s'est déchaîné et la police a réagi de manière excessive. J'ai entendu des variations sur le même canevas à l'intérieur même du mouvement. On aurait permis au Black Bloc de se déchaîner afin de justifier la violence policière. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé à Gênes. Et si nous construisons le problème de cette manière, nous resterons fixés aux mauvaises questions.
Mais ce n'est pas ce qui est arrivé à Gênes. Et si nous construisons le problème de cette manière, nous resterons fixés aux mauvaises questions. Soyons clairs. À Gênes, nous avons eu affaire à une campagne soigneusement orchestrée de terrorisme d'État. Cette campagne incluait la désinformation, l'usage d'agents infiltrés et de provocateurs, la collusion avec des groupes ouvertement fascistes. Et je ne veux pas dire fasciste au sens vague où la gauche utilise parfois le terme. Je veux dire fasciste au sens d'héritier direct des traditions de Mussolini et de Hitler.
Je veux dire fasciste au sens d'héritier direct des traditions de Mussolini et d'Hitler. Cette campagne incluait également le gaz lacrymogène et les coups ciblant de manière délibérée les groupes non violents, une brutalité policière omniprésente, la torture de prisonniers, la persécution politique des organisateurs.
Et elle incluait aussi un raid de nuit terroriste contre des gens endormis par des forces spéciales qui portaient des t-shirts marque Polizia sous des sweatshirts noirs. Ils ont cassé des os, brisé des dents, cogner des crânes de protestataires qui n'avaient pas tenté de leur résister. Ils ont fait cela de manière ouverte, d'une façon qui indique qu'ils n'avaient pas peur des conséquences et s'attendaient à une protection politique aux échelons les plus élevés.
Cette attente n'implique pas seulement le régime proto-fasciste de Berlusconi en Italie, mais par association, le reste du G8. Et spécialement les États-Unis, puisqu'il est avéré aujourd'hui que des policiers de Los Angeles ont aidé à entraîner les plus brutales des forces spéciales. En Italie, l'usage de tactiques de ce genre a une histoire qui remonte à la stratégie de la tension auquel on a eu recours contre la gauche dans les années 70. En fait, elle remonte encore plus loin, vers les années 20 et 30, qui ne semblent pas si éloignées lorsque vous entendez les prisonniers décrire comment ils ont été torturés dans des pièces dont les murs arboraient la photo de Mussolini. Cela remonte peut-être même jusqu'à la Renaissance, sinon jusqu'à la Rome antique.
Les mêmes tactiques ont bien sûr été largement utilisées aux États-Unis et dans d'autres pays. L'Italie a d'autre part une culture politique d'action de confrontation directe et de combat de rue avec la police, mais aussi des groupes pacifistes puissants et des groupes comme les Tutte Bianche qui explorent de nouveaux territoires politiques au-delà des définitions traditionnelles de la violence et de la non-violence. Tout cela a construit la scène où se sont joués les événements de la manifestation contre le G8.
À Gênes, la police a utilisé de manière très efficace le Black Bloc, ou plus précisément le mythe et l'image du Black Bloc. Et c'est là pour ses propres fins, non les nôtres. Certains aspects de la tactique du Black Bloc ont rendu la chose facile. Leur anonymat, les masques et les signes vestimentaires faciles à identifier, les tactiques de confrontation auxquelles ils sont prêts, et les dégâts à la propriété auxquels ils se livrent. Et peut-être de manière plus significative encore, leur manque de relation avec le reste de l'action et avec les organisateurs.
Mais à Gênes, ce n'est pas le Black Bloc qui a été la source du problème. C'est l'État, c'est la police et la violence fasciste. À Gênes, des actes irresponsables et inadmissibles, quel que soit le point de vue, ont été commis. Ils ont été attribués aux protestataires alors que la plupart semblent bien désormais avoir été commis par la police. Dans d'autres cas, les provocateurs de la police étaient si actifs qu'il est impossible de dire qui était responsable. Depuis Gênes, le problème n'est pas comment contrôler les éléments violents parmi nous, quoique ce puisse devenir un jour un véritable problème, mais comment empêcher une nouvelle campagne de mensonges, de violences instigées par la police et de représailles. Il n'y a pas de réponse facile à ce problème. La stratégie la plus simple serait d'en revenir à une forme de non-violence stricte, et c'est ce que beaucoup proposent. Je ne sais pas pourquoi, mais je résiste à cette réponse.
Je ne sais pas pourquoi, mais je résiste à cette réponse. Je me suis faite depuis longtemps avocate de la non-violence. Je n'ai pas la moindre intention de jamais jeter une brique dans une vitrine ou de lancer une pierre sur un flic. Et de manière générale, je trouve que casser des vitres et combattre les flics dans une action de masse est au mieux contre-productif, au pire suicidaire.
Une raison pourrait être que je ne peux plus utiliser le même mot, violence, pour décrire ce que j'ai vu faire lors des actions, y compris par les éléments les plus déchaînés de notre mouvement, et ce que les flics ont fait. Si casser une vitrine et riposter lorsque les flics attaquent est de la violence, donnez-moi un autre mot, un mot mille fois plus fort, pour décrire des flics frappant des gens qui ne résistent pas jusqu'à ce qu'ils tombent dans le coma. Une autre raison pourrait être que j'aime bien le Black Bloc. J'étais dans beaucoup d'actions, ils étaient fortement présents.
À Seattle, j'étais vraiment furieuse contre eux à cause de leur décision, qui me semblait unilatérale, de rompre des accords que tous les autres avaient acceptés.
À Washington 2000, j'ai constaté qu'ils se conformaient à des consignes avec lesquelles ils étaient en désaccord et à la formulation desquelles ils n'avaient pas participé. Et cela m'a inspiré du respect envers eux.
J'ai été assise sous les sabots des chevaux de la police avec certains d'entre eux lorsque nous avons arrêté la charge qui balayait une rue pleine de monde, en utilisant une tactique que Gandhi lui-même n'aurait pu critiquer.
J'ai étouffé avec eux dans le gaz lacrymogène à Québec, et je les ai vus s'abstenir de s'attaquer aux biens privés lorsqu'ils ont eu affaire aux habitants. Je suis liée. Oui, il y a eu des moments où certains m'ont mise en rage, mais ce sont mes camarades et mes alliés dans ce combat, et je ne veux pas les voir exclus ou diabolisés. Nous avons besoin d'eux ou de gens comme eux.
Il nous faut de la place dans notre mouvement pour la rage, l'impatience, la ferveur militante.
Pour une attitude qui proclame « Nous sommes des voyous, des chiens enragés, et nous allons démolir ce système ».
Si nous nous coupons de cela, nous nous affaiblirons.
Si nous nous coupons de cela, nous nous affaiblirons.
Nous avons aussi besoin de pacifistes à la Gandhi. Nous avons besoin d'espace pour la compassion, pour la foi, pour une attitude qui proclame « Mes mains feront œuvre de miséricorde et non œuvre de guerre ». Nous avons besoin de ceux et celles qui refusent de commettre des violences parce qu'ils ne veulent pas vivre dans un monde violent.
Et nous avons besoin d'espace pour ceux et celles d'entre nous qui essaient d'explorer des formes de combat qui échappent aux catégories. Nous avons besoin d'une créativité radicale, d'espace pour expérimenter, pour fabriquer un nouveau territoire, inventer de nouvelles tactiques, faire des erreurs.
Il existe des campagnes menées aujourd'hui sur un mode clairement et strictement non violent. Les consignes y ont été respectées et nul participant vêtu de noir et jetant des pierres n'a tenté d'y imposer d'autres tactiques. Mais les actions dirigées contre les grands sommets ont tiré leur force d'un éventail politique beaucoup plus large, depuis les syndicats et les ONG jusqu'aux anarchistes révolutionnaires. Tous ces groupes se sentent plus ou moins des droits sur les questions et sur les belles grosses cibles que ces sommets représentent.
Comment créer un espace politique capable d'inclure toutes ces contradictions et survivre à la répression intense dont nous sommes la cible? Telles sont peut-être les questions que nous devons vraiment poser. Dans une situation où il y va de la vie et de la mort, il est très tentant d'essayer d'exercer plus de contrôle, de fixer des règles, de se surveiller les uns les autres, de faire retraite vers ce qui semble des terrains sûrs. Mais tous mes instincts me disent que faire retour à ce qui semble sûr, éprouvé et vrai, est une erreur. En tant qu'anarchiste, faire un travail de type policier ne m'intéresse pas. Je voudrais en appeler chacun à plus de liberté, pas à moins de liberté, sachant que cela signifie aussi une plus grande responsabilité et un plus grand risque.
Utiliser des provocateurs pour susciter de la violence afin d'en faire porter le blâme à des dissidents et d'en faire le prétexte à la répression est une manière éprouvée et en général efficace de détruire les mouvements radicaux. Mais c'est une stratégie qui mise sur le familier, le prévisible. Identifier des provocateurs au milieu de l'action, c'est comme utiliser des produits insecticides contre les parasites d'un jardin. La toxicité du produit, du soupçon, le secret et le manque de confiance peuvent être aussi empoisonnants que les parasites. Mais les plantes sont capables de résister aux parasites si elles poussent dans un sol sain. Je voudrais suggérer que 3 produits nourriciers peuvent nous rendre plus résistants aux parasites. La connexion, la solidarité et la créativité.
Nous devons nous connecter. Nous ne pouvons plus nous permettre de mener, lors d'une même manifestation, des combats parallèles mais sans connexion. Il nous faut énoncer clairement nos intentions et nos buts et demander leur soutien aux autres. Il se peut que nous devions argumenter et lutter pour chacun, négocier et accepter des compromis. Expliciter un ensemble clair d'accords à propos des tactiques peut parfois sembler la meilleure manière de faire obstacle aux provocateurs. Mais les accords ne sont des accords que lorsque chacun participe à leur production. Si une partie du mouvement essaie de les imposer, ce ne sont plus des accords, mais des décrets. Et de plus, des décrets qui ne seront pas respectés et que nous n'avons pas le pouvoir de faire respecter.
Une telle concertation implique des risques des deux côtés. Mais ces risques doivent être courus, bien sûr de manière intelligente et réfléchie. Nous devons accorder une priorité plus élevée à la concertation entre nous, plutôt qu'à notre position par rapport à nos sources de financement ou à notre culture de sécurité. Si la tactique que j'ai choisie rend impossible que je parle avec toi, je dois me demander s'il s'agit d'une bonne tactique pour une action de masse. Dans ces dialogues, nous devons mener une vraie lutte pour nous respecter les uns les autres. Personne n'a revendiqué une position morale élevée. Nul d'entre nous ne peut fixer unilatéralement l'agenda, déterminer la forme de ce que nous faisons ou en décréter la politique.
Ceux qui plaident pour la non-violence, dont un des axes principaux est le respect envers l'adversaire, doivent la pratiquer à l'intérieur du mouvement. On ne peut pas se borner à disqualifier le Black Bloc et d'autres groupes militants comme rebelles négatifs ou adolescents immatures qui se défoulent. Ils ont une perspective politique qui est sérieuse, réfléchie et qui mérite d'être prise au sérieux. Mais cela signifie aussi que les groupes plus militants doivent arrêter de disqualifier ceux qui soutiennent la non-violence comme bourgeois, passifs et couards. Le courage du Black Bloc est digne de respect, mais il faut un courage d'un autre genre pour s'asseoir devant les flics anti-émeutes sans bâton, ni pierre, ni cocktail Molotov. Il faut du courage pour agir à découvert, pour s'organiser dans sa propre ville, là où on ne peut pas disparaître mais où on doit accepter d'affronter les conséquences. La non-violence ne signifie pas l'absence de confrontation ou le désir de rester sagement sur le côté.
l'essence de la lutte politique non violente est de créer des confrontations intenses qui révèlent la violence du système, puis d'en affronter et d'en accepter les conséquences. Dans les climats répressifs actuels, lorsque des religieuses de 88 ans sont condamnées à un an de prison pour des actions complètement pacifiques, les risques de la non-violence peuvent être beaucoup plus graves que les risques du combat de rue anonyme. Nous avons également à nous connecter avec une communauté plus vaste, et cela avant l'événement, pas en réaction, après. Nous devons faire savoir aux gens ce que sont nos intentions et ce que les paramètres de l'action pourraient être. Imaginons que le Black Bloc mette des affiches. Si vous voyez un groupe de personnes masquées piller des magasins, brûler des voitures privées et mettre en danger vos enfants, demandez-leur leur numéro de badge. Ce sont des flics. Car nous, nous sommes le Black Bloc et ce n'est pas ce que nous faisons. Il nous faut parler à ceux qui ne sont pas déjà convertis, faire du porte-à-porte, mais ne pas leur faire la leçon, leur demander comment ils vivent et l'effet sur eux de ces questions.
Il nous faut pratiquer une véritable solidarité les uns envers les autres. La solidarité ne consiste pas seulement à s'abstenir de nous dénoncer les uns les autres dans les médias, ou de faire des veilles pour ceux qui sont gardés en prison. Elle signifie mettre le bien de l'ensemble au-dessus de nos désirs immédiats individuels, et même au-dessus de notre sécurité individuelle. Elle signifie soutenir les intentions et les buts des uns et des autres, même lorsque nous ne sommes que partiellement d'accord avec eux. Et cela non pas seulement en disant « fais ton propre truc et je ferai le mien », mais en prenant vraiment la responsabilité de nos actions et de l'impact qu'elles ont au-delà de nous-mêmes ou de notre groupe proche.
Et cela non pas seulement en disant « fais ton propre truc et je ferai le mien », mais en prenant vraiment la responsabilité de nos actions et de l'impact qu'elles ont au-delà de nous-mêmes ou de notre groupe proche. Une plus grande liberté exige une plus grande responsabilité. Dans une action de masse, les décisions individuelles ont un impact collectif. Certaines tactiques ont le même effet que le gars qui monopolise la parole dans une rencontre. Elles prennent tout l'espace disponible et empêchent les autres d'être entendus. Les flics ne sont pas amateurs de distinctions subtiles. Si certains jettent des cocktails Molotov et brisent les vitres des magasins, cela peut affecter la manière dont la police réagira au groupe pacifiste un bloc plus loin. Les habitants, eux aussi, peuvent ne pas saisir la différence subtile entre brûler la banque du coin et brûler le magasin du quartier. De même qu'un gars bavard doit apprendre à se retenir de temps en temps et à la fermer, afin de donner à d'autres la possibilité d'être entendus, les tactiques de confrontation directe doivent accepter des restrictions dans le seul but de permettre à d'autres possibilités d'exister. La solidarité concerne ce que nous faisons dans la rue.
Cela signifie se protéger les uns les autres aussi bien que nous le pouvons et évidemment ne pas nous mettre délibérément en danger les uns les autres. Bien sûr, les idées que se fait un groupe de la protection peuvent correspondre aux idées que se fait un autre du danger. Une barricade peut sembler une protection, mais si votre stratégie est une désescalade de la tension, une barricade peut en fait rendre votre situation plus dangereuse. Nous devons respecter nos choix, ceux des uns et des autres parmi nous. La solidarité signifie que si je suis assise devant une ligne de flics anti-émeute et que vous êtes derrière moi, je peux me fier à vous pour empêcher la foule de me piétiner et pour ne pas jeter de pierre par-dessus ma tête.
Et que si vous enfoncez une ligne de flics et que je suis derrière vous, je suis là pour vous aider, pas pour vous retenir. Nous avons le droit de demander la solidarité de tous ceux qui veulent sortir ensemble dans la rue. La solidarité concerne également le fait de se tenir les uns les autres pour responsables, de critiquer ce que nous faisons ensemble dans le but d'apprendre à partir de nos erreurs et de devenir plus efficaces. Critiquer n'est pas attaquer. Une bonne critique est un signe de respect. Elle veut dire « je sais que toi et moi nous partageons un intérêt commun à faire mieux marcher les choses ».
Et peut-être plus que tout, il nous faut être créatifs. Nous pourrions éventuellement, juste pour activer nos idées, organiser une action avec une simple consigne. Aucune tactique fatiguée, éculée, n'est autorisée.
Pas d'arrestation symbolique pour un franchissement de ligne. Pas de briques dans les vitrines de Starbucks. Et s'il vous plaît, pas de chants ennuyeux, recyclés depuis la guerre du Vietnam.
À tout le moins, ce serait une expérience de pensée utile.
Nous avons besoin de penser hors des barrières et des boîtes, de changer nos tactiques, d'être là où ils ne nous attendent pas, de faire ce qu'ils n'attendent pas que nous fassions. S'ils s'attendent à ce que nous saccagions les McDonald's, nous serons là à perturber le service en distribuant de la nourriture gratuite et en demandant à ceux qui y travaillent comment la globalisation les affecte.
S'ils attendent des militants vêtus de noir, les militants s'habilleront couleur lavande et les pacifistes mettront en scène les funérailles de la démocratie vêtues dans les voiles noires du deuil.
S'ils s'attendent à ce que nous marchions tranquillement par groupe de 5 pour nous faire arrêter, nous disparaîtrons pour réapparaître tout à fait ailleurs.
Si un noyau dur des combattants de rue renverse une barrière, les religieuses de 88 ans seront les premières à faire intrusion dans la zone rouge.
S'ils transforment un lieu de rencontre en forteresse et se massent sur les murs, nous nous approprierons le reste de la ville.
S'ils cachent les sommets dans un endroit inaccessible, nous choisirons notre propre terrain. Ce sont des défis difficiles, mais les temps, eux aussi, sont difficiles et cela ne va pas s'améliorer.
Ce sont des défis difficiles,
mais les temps, eux aussi, sont difficiles et cela ne va pas s'améliorer.
Et cela ne va pas s'améliorer.
Et cela ne va pas s'améliorer.
J'ai déjà vu trop de mouvements faire scission et échouer, ou s'exposer à la mort dans des actions toujours plus extrêmes et suicidaires. Ou encore étouffé de moralisme autosatisfait. Je veux gagner cette révolution.
Je ne pense pas que nous ayons les moyens écologiques et sociaux d'en mener une autre, si celle-ci échoue. Les chances de la gagner sont si minces que nous ne pouvons pas nous permettre d'être autre chose qu'intelligents, bons stratèges et unis les uns aux autres. Nous devons être coude à coude, même lorsque nous ne sommes pas d'accord. Et si nous en sommes capables, si nous pouvons conserver les différences au sein de notre mouvement, nous aurons alors fait un pas en avant ce qui concerne les défis encore plus grands auxquels nous aurons affaire lorsque nous aurons gagné et que nous devrons reconfigurer un monde profondément divers. Starhawk.